yeah, oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Woo!
Salut à tous, salut Timo.
Salut.
Voilà, c'est la nouvelle émission de The First Time, un maître de blues que l'on consacre aujourd'hui au King du blues. Évidemment, tout le monde est roi et reine dans cette émission. C'est Muddy Waters.
Ouais, que nous avons entendu, que nous avons l'habitude d'entendre dans l'introduction de cette émission. Et le jingle aussi, c'est ça.
Là, c'est lui, voilà. Donc en fait, Muddy Waters, on commence direct avec la petite bio du King du Blues. Il s'appelait, avant de s'appeler Muddy Waters, McKinley Morganfield. Il est né en 1915 dans une petite cabane en bois dans le Mississippi. À l'époque, hein, franchement, la population noire vivait dans des conditions qui n'étaient pas l'idéal. Son père, lui, était métayer, donc il faisait pousser des légumes, il élevait des poules, des cochons. Voilà, c'était une vie quand même de paysans. Et lui, Muddy Waters, il est né dans ce monde-là. Hein. Voilà, son père avait beaucoup de travail, il jouait aussi un peu de musique, mais visiblement, c'est pas lui qui lui a transmis cet amour de la musique. Voilà. Donc, il naît dans ce cadre-là. Son père s'occupe pas énormément de lui parce qu'en fait, Muddy Waters faisait partie d'une fratrie de 10 à 12 enfants. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de monde.
C'était assez nombreux.
C'est ça. Et donc, en fait, c'est sa grand-mère qui l'a élevé parce que sa mère est décédée quand lui avait 3 ans. Donc, il est parti vivre avec sa grand-mère qui, elle, était logée sur une plantation.
Ouais, et d'où viendrait son surnom Muddy Waters ? Qui est donc petit, parce qu'elle l'appelait petit bébé boueux.
Et ouais. Voilà, parce que Muddy Waters, ce sont les eaux boueuses. Voilà, donc Muddy Waters, lui, il s'installe avec sa grand-mère très jeune, et évidemment, il ne va pas trop à l'école. Hein, et très, très rapidement, il se retrouve dans les champs. Hein, voilà, les champs de coton et autres, il conduit des tracteurs. Il a une véritable vie de paysan, mais quand même, cette musique l'attire, donc il commence tout début par jouer de l'harmonica, et c'est seulement, ou déjà on peut dire, vers ses 15-16 ans qui se met à la guitare, et il achète sa première guitare vraiment pour une poignée de dollars, et là bon, c'est la révélation. Il joue un peu partout, hein, dès qu'il le peut, dans des juke joints, dans des auberges, les fêtes du dimanche, voilà, il gagne pas sa vie avec, évidemment, on lui paye un petit sandwich et 3 bières, on lui dit c'était sympa d'être venu jouer, et puis... Voilà,
ça commence comme ça, encore aujourd'hui.
C'est vrai. C'est vrai, tu joues dans les baloches, dans les balletti.
Ouais, c'est ça, pour avoir de la marquisette gratuite.
Voilà, c'est ça. Et donc, bah, en 1941, donc, il a quoi ? Il a une petite trentaine d'années. Là, c'est la révélation grâce à Alan Lomax.
Ouais.
Voilà, un ethnomusicologue qui, lui, avait une mission, c'est-à-dire il était envoyé par la bibliothèque du Congrès des États-Unis.
Un folkloriste, plus exactement, pour les puristes.
Exactement, pour aller justement dans les coins comme celui où habitait Muddy Waters, pour enregistrer en fait les habitudes musicales, les traditions musicales de certaines populations. Et il entend parler, c'est ça, hein, de Muddy Waters, en fait, on le mène à lui.
Ouais, il avait déjà sa petite réputation de musicien localement, de musicien blues. Et ils ont, bon, ben, Led Belly, on a fait une émission là-dessus. Il était vraiment dans cette volonté de classifier tous les musiciens blues de l'époque, parce que selon eux, les frères Lomax, non, c'était les
père et le fils,
oui. Ben, c'était en voie de disparition, ce style de musique. Donc, Muddy Waters faisait partie du panel choisi.
Exactement. Et donc, ça a été. Donc voilà, Alan Lomax va le voir. Ils disent bon, il faut qu'on va t'enregistrer. Donc, ça se passe à la fin août 1941. C'est le premier enregistrement de Muddy Waters. Et en fait, Muddy Waters dira plus tard, ça a été le plus grand événement de ma vie d'enregistrer et surtout de m'entendre.
Et on a retrouvé cet enregistrement, les magies d'Internet.
Et alors c'est parti, on écoute le morceau du coup.
Ouais, le morceau, alors il y a eu plusieurs enregistrements, ils en ont fait une session, ils sont revenus par la suite, etc. Mais là on va écouter un des enregistrements de 1941 et c'est la chanson Country Blues.
Later in the evening time, I feel like blowing my horn. I woke up this morning, find my little baby gone. Later in the evening, man, I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, baby, find my little baby gone. Well, now, some folks said they worried. Oh, blues ain't bad. That's the merest feeling, child, I most ever had. Some folks tell me, man, I just worried. Oh, blues ain't bad. Well, that's a merest old feeling, honey, now. Well, gal, I most ever had. Well, brooks run into the ocean run into the sea. If I don't find my baby, somebody gonna bury me. Brooks run into the ocean, child, ocean run into the sea. Well, if I don't find my baby now, well, yeah, you gonna have to bury me. Yeah, man, it seemed like hour and hour, seemed like days, seemed like my baby would stop her low down way. Man, it seemed like hour, child, and hour, seemed like days. Yeah, seemed like my woman now, well, girl, she might stop her low down way.
Voilà, c'était Country Blues, le tout premier enregistrement de Muddy Waters qui a véritablement changé sa vie, puisque après s'être entendu pour la première fois grâce à cet enregistrement, il a finalement décidé, ça a été un cap décisif, il s'est dit « je pars pour Chicago ». Ça, c'était fin 42, début 43.
Ouais, là où il faisait un petit peu meilleur pour les musiciens de blues à l'époque. Donc il débarque en 1943 à Chicago. Au départ, il est chauffeur la journée et il joue pour gagner sa vie. Hein. Il conduit des camions et il joue du blues le soir dans les clubs. Et il y a véritablement une bataille pour prendre pied sur scène, sur la scène de Chicago. La compétition y est rude. Il y a beaucoup de musiciens de blues du Sud qui ont eu son idée de réussir à Chicago. Et donc il rencontre Big Bill Brownsy qui est de 20 ans son aîné. Et il l'aide en le faisant jouer en première partie de ses concerts. Et il devient aussi ami avec le guitariste Jimmy Rogers, qui est un petit peu plus jeune que lui. Et il devient l'accompagnateur de l'harmoniciste Sonny Boy Williamson 1, avec cette fameuse histoire des Sonny Boy, ils sont plusieurs. Et c'est à cette époque qu'il choisit la guitare électrique, après s'être rendu compte que son jeu acoustique traditionnel au bottleneck ne s'entendait absolument pas dans le bordel des clubs de blues. Et c'est véritablement ce son électrique qui va le rendre célèbre. C'est à ce moment-là qu'il va prendre sa dimension Muddy Water-esque. Et donc, il finit par enregistrer...
Avec la guitare électrique, ouais. Ça c'est 3 ans plus tard, en 1946. Il enregistre pour un label qui s'appelle OK. Et
là, t'as une histoire là-dessus. Là. Oui, voilà. On a découvert ce label.
Exactement. Donc, il enregistre en 46 pour OK, mais OK, ça fait une vingtaine d'années déjà qu'il existe là-bas, à New York, à Chicago. En fait, c'est un label qui a été monté par un
OK, OK. On sait pas comment.
Bah, en fait, OK. E-H. Voilà. C'est un label qui a été monté par un Allemand, en fait, qui a émigré aux États-Unis et qui a eu l'idée d'enregistrer...
Les minorités.
Voilà, les minorités, exactement. Donc, en fait, il enregistrait pour les populations émigrées, comme les Polonais, les Tchèques. Il enregistrait aussi des chants yiddish. Et donc, là, en fait, on voit qu'en enregistrant Muddy Waters, ce label-là enregistrait les musiques des Afro-Américains. C'est ce qu'on a appelé à l'époque le Race Records. Voilà, exactement. Donc, y a un seul morceau qui a été qui est sorti en disque, c'est Mean Red Spider.
I got a mean red spider, and she's been webbing all over town. I got a mean red spider, and she been webbing all over town. I'm gonna give me a mean black spider, so I can tear her car well down. I got a break coming, no news for me tomorrow. I got a breaking show coming, no need for me tomorrow. That's such a mean red spider, she breaking up my happy home. All right, stop that stuff, man. Go ahead, man. If I don't go crazy, I will surely lose my mind. Well, you know, if I don't go crazy, I will surely lose my mind. That's just a mean red spider, and she just bother me all the time.
Studio Zef
91.1
The First Time I Met the Blues. Alors après ce premier enregistrement à Chicago,
on a déjà le son Muddy Waters.
Exactement. Quelques temps plus tard, Muddy Waters rencontre Sonny Landslim. Alors lui, c'est un musicien, un chanteur, pianiste de blues qui a déjà fait son trou à Chicago. Donc Muddy Waters le rencontre et Sonny Landslim lui dit « Mais attends, moi, je vais t'ouvrir des portes, ouais, et notamment celle des frères Chess. » Et en fait, donc du coup, Muddy Waters enregistre pour les frères Chess avec Sonny Landslim qui l'accompagne. Et là, c'est le début de la grande histoire avec les frères Chess. Et qui sont les frères Chess? Alors même si on pourra faire référence à notre émission qui était consacrée aux frères Chess, que vous retrouverez sur studiozef.fr. Timo, qui sont les frères Chess?
Alors les frères Chess, c'est deux frères.
Ouais.
Donc ils sont lancés dans la musique, c'était des businessmen, hein, qui sont lancés dans la musique... à la base, ils avaient des clubs de musique, de blues, de jazz, etc. C'est ce qui marchait à Chicago. Donc, ils avaient pour habitude de faire venir des bluesmen, des jazzmen, plutôt des gens, des blacks. Hein, et donc, ils se sont lancés dans le business de la production quand Aristocrat Records, qui existait déjà, battait un peu de l'aile. Et voilà, ils ont proposé de racheter cette maison de disques Aristocrat Records, qu'ils ont rebaptisé plus tard Chess Records. Voilà. Et c'est des grands acteurs de la musique rhythm and blues aux États-Unis, tout du moins à Chicago, dans notre cas précis.
Donc Muddy Waters enregistre pour eux, c'est pas un franc succès en fait, le premier disque hein, qui sortent ensemble.
Non, alors visiblement, non, c'est pas un super grand succès, mais... Ensuite, ils sont lancés dans une spirale d'enregistrement, enfin... ils insistent un petit peu avec Muddy Waters et ça marche un peu mieux par la suite.
Et donc bah alors on écoute un des morceaux qui a pas trop marché finalement, mais ça que nous on aime bien.
Ça fait un peu bizarre de dire ça parce qu'en fait c'est voilà les grands succès, ce qui a cartonné, c'est I Can't Be Satisfied et I Feel Like Going Home qu'on a déjà passé plusieurs fois dans l'émission. Donc là on va écouter le non succès mais qui est quand même bien.
Gypsy Woman.
You know the gypsy woman told me that you're your mother's bad luck child. You know the gypsy woman told me that you're your mother's bad luck child. Well, you're having a good time now, but that I made trouble after a while. Well, now you know I went to a gypsy woman to have my fortune told. So you better go back home, son, and peep through your keyhole. You know the gypsy woman told me that you're your mother's bad luck child. You're having a good time now, but that'll be trouble after a while. As she said, I peeped through my keyhole and have another main lane in my bed. You know the gypsy woman told me that you're your mother's bad luck child. Well, you're having a good time now, but that'll be trouble after a while.
Voilà, c'était Gypsy Woman de Muddy Waters pour ceux qui nous rejoignent sur cette émission consacrée au King du Blues, Muddy Waters. Donc Gypsy Woman, le non-succès de l'époque de l'artiste. Mais après, les choses, évidemment, s'améliorent. Pour lui, il enregistre avec des musiciens de studio qu'il ne choisit pas. Mais en fait, lui, ce qu'il aime vraiment, c'est de tourner avec son propre groupe, avec ses musiciens. Et donc, c'est ce qu'il fait en dehors des murs du studio. Notamment, il y a Little Walter qui l'accompagne à l'harmonica, Jimmy Rogers qui était son pote quand il est arrivé sur Chicago, guitariste est là aussi. Et en fait le groupe là de Muddy Waters devient une réelle référence du son rhythm and blues à l'époque. Et Muddy Waters développe aussi son jeu qu'on appelle, comme tu me le disais tout à l'heure Timo, voilà, un jeu torride quoi, à la guitare, ouais, avec le bottleneck.
Ouais, un jeu vraiment particulier qu'on peut classifier de simple, mais avec une sonorité très précise où il tire les notes, il tire les notes au maximum. C'est le seul dans l'histoire du blues à être capable de faire ça avec une telle simplicité, mais avec autant d'assurance et autant de force. Donc c'est voilà, en 1951 avec cette formation, donc ses amis, hein,
le groupe avec lequel
il arrive à imposer ses musiciens
en studio.
Et voilà, il enregistre dans la décennie donc pour Chess Records de nombreux enregistrements avec notamment Otis Pan au piano et Willie Dixon à la contrebasse. Donc vraiment des monstres sacrés du blues, hein. Quand vous prenez les pochettes, les vinyles de ces années-là de Muddy Waters, c'est complètement hallucinant le casting qu'il y a aujourd'hui. En tout cas, tous les musiciens avec qui il a joué sont devenus
des stars
hein, à part entière. Et donc voilà, dans ces années-là, donc dans la décennie 50, il a produit des œuvres capitales du blues électrique. J'insiste sur le mot capital, avec des titres comme Manish Boy qu'on va écouter, Got My Mojo Working, I Just Want to Make Love to You, Hoochie Coochie Man, j'en passe. Hein. Donc ces morceaux qui ont directement participé à l'essor de la musique noire américaine, du R&B, comme on l'appelait à l'époque, jusque dans les années 60. Ça a irradié jusque sur la décennie des années 60. Ouais. Voilà, ce sont des titres qui ont été énormément repris par beaucoup de groupes aujourd'hui. Et des morceaux tels que Manish Boy ou Chikuchiman, avec quand on demande à un enfant de faire du blues, il va chanter ça. Donc, ça vient de ces morceaux qui ont grandement influencé l'histoire du blues, de la musique, du rock. Les petits de l'époque, Mick Jagger, etc. etc.
Donc, on a l'eau à la bouche, hein, on a envie d'écouter là tout de suite Manish Boy.
Oh, yeah! Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.
Full grown man. I'm a man child. I'm a hoochie coochie man.
Manouche Paul. Bon, les puristes nous excuseront, c'est la version qui a été faite un petit peu plus tard dans les années 70 avec Johnny Winter, mais la version originale faite dans les années 50 est proche de l'inaudible d'un point de vue radiophonique.
Voilà, donc on a tranché, on s'est dit pas de version des 50s.
Allez, voilà.
Voilà. Donc à la fin des années 50, Muddy Waters traverse l'Atlantique, il va en Angleterre et il fait quelques concerts et là il choque vraiment le public d'amateurs de blues européens.
Qui était habitué à écouter du blues, mais des artistes comme par exemple Big Pete Brownsy.
Ouais, on mettra d'ailleurs un lien sur internet pour que vous puissiez écouter.
Et des gens qui avaient l'habitude de jouer en acoustique. Et ils n'étaient pas habitués à cette vision du blues avec des instruments électriques, notamment une guitare électrique. C'était un peu sacrilège pour les amateurs de blues. Et c'est une dichotomie qu'on trouve encore aujourd'hui avec pas mal d'ouvrages qui sont écrits par des spécialistes du blues qui classent le blues en deux temps. Donc le blues acoustique originel, le blues pur, folk singer, et ce blues-là plus électrique qui... pour eux, est perverti par le progrès, par l'électricité, etc. Je ne suis pas du tout de cet avis-là, mais il fallait le souligner.
C'est ce qu'on dit. Donc après, en 1960, la décennie plus tard, sort un album majeur.
Oui, alors c'est l'album At Newport, donc, qui a été décisif dans la carrière de Muddy Waters. Rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. C'est des morceaux qu'il a déjà enregistrés dans les années 50, qu'il réenregistre donc dans cette année-là, 60, d'une meilleure manière, avec une sonorité particulière qui se rapproche vraiment du rhythm and blues, qui est quelque part débluesifié d'un point de vue acoustique, comme on en parlait tout à l'heure.
Ouais, donc c'est quelque chose, un véritable succès commercial, cet album-là.
Pas vraiment commercial, plutôt critique, on va dire. C'est un album qui fonde, c'est un des fondements de la musique noire américaine telle qu'on l'a connue après dans les années 60 avec la Motown.
D'accord, donc on écoute un morceau de cet album qui s'appelle Baby Please Don't Go.
Your way down here, and I'll make you all be mine. Turn your lap down low. Turn your lap down low. Turn your lap down low, and I beg you all night long, baby, please don't go. Thank you.
before I be your dog. Before I be your dog. Before I be your dog, I get you way down here on the way you want. You know your man and gone.
Joseph
91.1
The first time I met the blues. Avait l'air d'apprécier. Hein. Ouais. C'était I Feel So Good de Muddy Waters.
Bien.
Vous êtes toujours sur studiozef.fr, l'émission The First Time I Met the Blues. Alors, c'est une émission consacrée à Muddy Waters, donc on continue avec le King du Blues.
Ouais, l'un des chefs du blues. Enfin, le chef du blues. Ouais, bon, enfin, on s'entend. Donc, il continue. Bon, c'était. Tous les musiciens sont quelque peu opportunistes. Hein. Donc, après avoir électrifié le blues, avoir mis en avant ce côté électrique, notamment avec la guitare, qui t'a dégoûté les plus grands amateurs de blues
européens.
De l'époque, européens, les British, ils sont toujours très classiques.
Donc, tu rigoles, attends, au contraire, c'est des dingos des fois.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison.
Les Anglais.
Je retire ce que j'ai dit, excusez-moi, amis anglais. Et donc en 1963, il rentre en studio, et donc Muddy Waters, et il enregistre l'album Folk Singer. Donc c'est notamment parce qu'il est conscient de l'envol de la musique folk dans ces années-là. Et donc il crée cet album en 64 avec l'inévitable Willie Dixon et Buddy Guy, le petit Buddy Guy qui débarque à cette époque-là dans les studios de Chess Records. Donc l'un des meilleurs, enfin ouais, le meilleur album, je pense, de Muddy Waters. Le plus profond, on va dire. Et ben, on va écouter My Home is in the Delta, que tu aimes particulièrement. Melior. Et c'est tellement bien qu'on va en écouter une autre juste derrière, Long Distance Call.
Now you know I'm leaving Chicago, and people that show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning, won't be back no more. Well, I know my little baby, this girl don't know what a shape I'm in. You know I haven't had no loving, boy, you know, and God knows when. Now you know I've just been sitting here thinking, wondering where in the world she been. Look out. Won't come down. I feel like crying, but you know the tears won't come down. You know I got a funny feeling, I'ma have to leave your town. Sitting here thinking, wondering where in the world she been.
Studio Zef
91.1.
The first time I met the blues.
Say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. You say you love me, darling. Please call me on the phone sometime. Mm-hmm.
your voice. Ease my worried mind. One of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. One of these days, I'm gonna show you how nice a man can be. I'm gonna buy you a brand new Cadillac if you all speak some good words about me. My phone ringing, sound like a long distance call. Hear my phone ringing, sound like a long distance call. Picked up my receiver. The party said another mule is kicking in your stall.
Voilà, c'était La Profondeur de Muddy Waters avec Long Distance Call. Et donc dans cette, à cette époque-là, dans les années, au courant des années 60, Muddy Waters enchaîne les tournées avec une formation électrique, mais le public a tendance quand même à se désintéresser parce qu'il y a des nouveaux venus en fait sur la scène musicale.
Il y a une sorte de revival du blues, donc notamment les formations de blues britanniques ou américaines. Donc on peut
Blanche,
ouais, on peut citer John Mayall, Cream, les Beach Boys, les Rolling Stones, qui ont même piqué le nom de leur groupe à l'œuvre de Muddy Waters. Voilà, le jeune public se dirige en priorité vers ces formations, ce qui est tout à fait normal.
Alors, pour contre-attaquer et
contre-attaquer,
voilà, en 1968, Muddy Waters enregistre un album qui, lui, est très critiqué, qui s'appelle Electric Mud.
Ouais, l'image de Howling Wolf, qui fait exactement la même chose, la même erreur pour les critiques blues puristes. Il fait cet album de blues psychédélique, voilà, qui a été vraiment très critiqué, complètement descendu, même à sa sortie. Mm-hmm. Et encore aujourd'hui, la majorité des critiques de blues, des spécialistes du blues,
marchent dessus, le piétinent, quoi.
Bah, disent que c'est n'importe quoi, qu'il aurait jamais dû faire ça, etc. Que c'était un acte purement commercial. C'est pas mon avis. Et notamment beaucoup de rappeurs aux États-Unis des années 80-90 le mettent en avant, justement, disent que non, ça c'est un vrai album de blues, que ça leur a donné envie de faire de la musique, que c'est une réelle transmission entre un grand-père black américain qui faisait de la musique et eux aujourd'hui du rap, enfin hier dans les années 90 plutôt.
Ouais, bah alors vous jugerez par vous-même, hein, est-ce que c'est bien ou non. On écoute ça tout de suite, un morceau qui s'appelle I Just Want to Make Love to You.
All day. go. I don't want you to keep me whole. I don't want your money too. I just want to make love to you. Love to you. Love to you. I'll make love to you.
Joseph
91.1
The First Time I Met the Blues. On vient d'écouter un morceau d'Electric Mud, un album enregistré en 68, et dans la foulée, Muddy Waters collabore avec des artistes blancs, des jeunes, en fait la nouvelle génération, comme Mike Bloomfield. Il enregistre même à Londres avec Steve Winwood, même avec Rory Gallagher, que nous on kiffe ici dans l'émission The First Time I Met the Blues.
Il a joué aussi avec Jimi Hendrix, les grands guitaristes de l'époque, enfin déjà grands guitaristes de l'époque.
Carrément. Et donc dans les années 70, là, c'est un peu quand même l'apogée pour Muddy Waters.
Bah, l'apogée, en tout cas, il enchaîne les festivals de blues où il est célébré comme une véritable légende vivante. Hein. Le blues a été popularisé par ces jeunes gens, justement, après Woodstock, après grâce à l'industrie musicale qui fonctionnait à plein tube en Europe, en Angleterre, au niveau mondial. Donc il est vraiment considéré comme déjà comme une légende vivante. Et ces disques ont un regain d'intérêt après que Chess a fait faillite en 1975.
Exactement, grâce en fait à un label qui s'appelle Blue Sky Records, parce que Muddy Waters signe avec ce label-là un contrat grâce à Johnny Winter.
Ça y est, il arrive celui-là.
Johnny Winter,
qu'on aime beaucoup aussi.
Exactement, et que l'on a entendu sur l'album Hard Again. Parce que tout à l'heure, on vous a passé Manish Boy, l'enregistrement des années 70 et non pas des années 50 parce qu'il était mauvais. Et donc là, on est aux années 70 et 77. Hard Again est enregistré avec Johnny Winter et l'album est récompensé par un Grammy. Donc on peut se faire plaisir tout de suite, on écoute un morceau.
Ouais, c'est Deep Down in Florida.
Sunshine, damn you every day. Well, I'm going down in Florida. What a sunshine, damn you every day. Yeah, I take my woman out on the beach, fellas. Sit down in the sand and play. Yeah, I think I'll go down in Gainesville just to see an old friend of mine. Well, I believe I'll drop down in Gainesville. Just a silly old buddy of mine. Well, you know, if we're not too busy, I believe I'm gonna drop over in Newberry sometime. Well, all right, let's go back to Florida. Let's go back down to Florida where the sun shines. that's how long it's been.
Down in Florida, un morceau enregistré en 77 par Muddy Waters avec son ami Johnny Winter. Les deux ont continué de collaborer hein, par la suite, puisqu'en 78 ils enregistrent l'album I'm Ready, en 81 King Bee, et puis le dernier album de Muddy Waters qui s'appelle Muddy Mississippi Waters Live. Et ça, c'est un des best, c'est le best-seller en
c'est
fait de Muddy Waters.
C'est l'album qui a été le plus vendu.
Exactement. Voilà. Et donc dans les années 80, là, ça commence à sentir le roussi.
Ouais, ça sent. Décline, donc on lui diagnostique un cancer qu'il tient secret pour continuer à jouer de la musique. On a la date précise de la dernière fois, sa dernière apparition en live, c'est le 30 juin 1982, comme invité spécial de qui, je te le
donne. Eric Clapton.
Ouais, de toute façon, il faut toujours qu'on parle de lui. Voilà, parce que les médecins lui disent que son cancer est en rémission. Mais pourtant, il finit par mourir le 30 avril 1983, dans la banlieue de Chicago.
Donc il a quand même marqué son
Ouais, il laisse un patrimoine
temps,
musical qui est énorme, hein, des heures et des heures d'enregistrement, divers styles, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans cette émission. Il a vraiment fait évoluer la musique rhythm and blues, le blues, la musique noire aux États-Unis. Il a collaboré avec des immenses artistes qui sont devenus, qui ont une carrière immense, hein, Little Walter, Sonny Boy Williamson II, Junior Wells, Jimmy Rogers, James Cotton, Buddy Guy. La liste est très très longue.
Exactement, et donc cette émission consacrée à Muddy Waters, vous pouvez la retrouver sur le site internet de la radio, studiozef.fr. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à faire des suggestions. Et puis on se quitte en musique avec Muddy Waters, James Cotton et Johnny Winter. C'est Trouble No More, un live de 1977.
Dice don't matter.